Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société.
Bon, je pense pas que ce soit utile de préciser qui on vient d'entendre. Elle s'était exprimée à ce sujet à l'Assemblée nationale le 14 février. Et Madame Vidal était très claire. Il est temps de lutter contre ce qui gangrène notre société. Elle demande pour cela au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, de réaliser un bilan de l'ensemble des recherches en vue de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Ça a évidemment fait polémique, et ce, pour plusieurs raisons. Pour commencer, le timing était loin d'être optimal, puisque la ministre, on l'a presque pas entendu s'exprimer sur la condition actuelle des universitaires. Quand bien même cette image qu'on avait d'eux, faisant la queue aux banques alimentaires, avait bien marqué l'opinion. Ou la condition des chercheurs qui plonge encore plus dans la précarité. Et puis bon, c'est pas le taf du CNRS ça. Il n'a pas la vocation de devenir une instance de contrôle du milieu universitaire. Il réagit d'ailleurs rapidement en condamnant avec fermeté celles et ceux qui tenteraient d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique ou pour stigmatiser certaines communautés scientifiques. Il faut savoir que c'est pas un terme qui sort de nulle part. C'est pas elle qui l'a fait apparaître dans le débat public. On avait Monsieur Blanquet, notre ministre de l'Éducation, qui dénonçait déjà en octobre dernier ses ravages à l'université. Et c'est encore moins elle qui l'a inventé. L'extrême droite se l'était déjà appropriée. Et c'est en 2002 que ce néologisme apparaît pour la première fois, dans l'ouvrage de Pierre-André Taguieff, directeur de recherche au CNRS. Et comme par hasard, il fait partie de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, créé par un collectif d'universitaires qui entend lutter contre ce qu'ils appellent l'embrigadement de la recherche. Donc il y a ce contexte autour, dont il faut bien avoir conscience, et qui est loin d'être neutre. Ça a beau être une notion floue, on sait très bien ce qui est visé là-dedans. Madame Frédérique Vidal pointait par ailleurs directement le doigt sur les études postcolonialistes par rapport au racisme ou sur les études sur le genre. Et du coup, moi, je me suis intéressée à cette poignée de chercheurs qui créent une emprise croissante, évoquée par Madame Vidal, des idéologies à l'université. Il n'y en a évidemment pas beaucoup, mais ils sont en revanche très actifs dans le débat public. Deux noms reviennent souvent. Monsieur Taguieff, bien entendu, l'inventeur de la notion, et Monsieur Bernard Rougier, qui ont par ailleurs travaillé avec Monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, sur le projet de loi sur le séparatisme. En fait, c'est pas compliqué. Le problème, ils le prennent à l'envers. Grosso modo, ils considèrent qu'il y a des domaines d'études qui ne font que attiser les haines et, attention, la volonté de revanche. Du coup, ce que font les sciences sociales, soit mettre en visibilité quelque chose qui existe déjà, pour eux, ça va être offrir une légitimation au discours islamiste, par exemple. Ça te rappelle pas un truc ? Bah ouais, notre cher Manuel Valls, qui aimait s'en prendre à la sociologie, qui considérait qu'elle excusait les terroristes. Pareil, lorsqu'il avait déclaré, suite aux incidents de l'hypercacheur en 2016, qu'il n'y avait aucune explication qui vaille. Parce que expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Et avec ces hommes, Rougier au Taguieff, on retrouve le même discours que celui de Pascal Bruckner sur la fameuse figure du suprémaciste blanc comme bouc émissaire. Puisque les défenseurs de l'islamo-gauchisme parlent de culpabilisation, de passion moralisatrice et du fait que ce privilège blanc soit voué à être dénoncé publiquement, isolé et sanctionné. Ils ont aussi particulièrement du mal avec la notion du systémique et emploient à outrance le champ lexical du prétendu. En réalité, ils semblent surtout dénoncer ce qui leur semble être un monde qu'ils ne maîtrisent plus. Ils ont aussi une petite tendance à se ridiculiser. Déjà, quand tu lis la page de présentation de l'Observatoire du décolonialisme, qui ne considère pas prendre la moindre position politique, au passage, bien sûr, ils te disent qu'à la différence de l'islamophobie, qui n'a tué personne en France...
Ah ouais, ça commence bien.
L'accusation tue bel et bien. C'est ça, ils se sentent accusés en fait, attaqués, et du coup... Leurs arguments sont plutôt fragiles. C'est pour ça que parfois, ils s'approprient des événements pour les remanier à leur sauce. Par exemple, M. Taguieff a réagi aux incidents de Sciences Po Grenoble. Pour lui, c'était la preuve que l'islamo-gauchisme existe, qu'il se base sur des accusations sans fondement et qu'il fait des ravages. Alors qu'en réalité, ce qui était dénoncé, et visiblement ce qu'il n'a pas capté, c'est le déni de deux professeurs concernant l'existence même de l'islamophobie. Et puis bon, surtout, ce qu'on retrouve beaucoup sur le site de l'Observatoire, dans la bouche de ses chercheurs ou de certains politiques, c'est que tout cet amas de recherches qu'on a foutu dans le même sac, eh bien ce seraient des thèses qui nous viendraient tout droit du monde anglo-saxon et qui envahirait notre monde de la recherche. Là, ça fait de nouveau penser à un truc, non ? On s'aligne ici, avec ce genre de propos, sur le gouvernement de la Pologne ou de la Hongrie qui voit dans la défense des droits des LGBT une agression extérieure. Alors que ça, c'est idiot. C'est la base de la recherche, du monde dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. C'est normal qu'on puise dans ce qui existe ailleurs, qu'on se confronte avec les chercheurs du monde. Il y a ce truc qui m'avait fait très rire aussi, quand ces défenseurs de l'islamo-gauchisme ont rétorqué au CNRS qui disait que ce terme ne correspondait à aucune réalité scientifique, qu'il utilisait communément des termes aussi peu scientifiques qu'ils ont justement dans le viseur, comme racisme systémique, théorie du genre, islamophobie, et donc que ça ne veut pas dire qu'il ne correspond pas à une réalité sociale. Alors déjà, c'est assez gonflé d'utiliser ce qu'ils décrédibilisent pour légitimer leurs termes à eux. Et puis bon, ils étaient un peu en train d'admettre que ce qu'ils ont dans le viseur correspond à une réalité sociale, non ? Sinon, il y a un peu d'hypocrisie qui rôde dans les parages. Puisque par exemple, sur le site de l'Observatoire, on dénonce cette invasion qui obligerait de jeunes doctorants à s'aligner sur cette nouvelle « mode », comme ils l'appellent, sous peine de ne jamais avoir de poste. C'est l'inverse en réalité. Ces thématiques étaient absentes par le passé. On les redécouvre, et c'est pour cela qu'elles bouleversent nos sociétés. Par contre, elles ne sont pas en train de gangréner la recherche. Très peu de chercheurs travaillent sur ces questions. Niveau ratio, il y en a seulement une quarantaine qui ont été recrutés et qui sont spécialistes. Ce qui représente, en fait, moins de 1%. Dans tout ça, ça peut être intéressant de lui trouver des échos historiques à cet islamo-gauchisme. Pas besoin de chercher bien longtemps, parce qu'il en existe déjà pas mal. Dénoncé par une tribune de 600 chercheurs, publiée dans le journal Le Monde, il évoque le McCarthyisme, orchestré par le sénateur Joseph McCarthy, dans les années 50, aux USA, qui cultivait cette paranoïa anticommuniste et qui avait l'allure d'une chasse aux sorcières. On luttait pour extirper le communisme, justement, dans les établissements universitaires. Ça se traduisait par des professeurs évoqués, des bourses pas accordées, etc. Elle peut sinon rappeler ce truc qui s'était développé au Royaume-Uni, où l'on considérait que l'islam, victime de l'histoire, pouvait servir le prolétariat. L'ultra-gauche pour mener à bien la grande révolution. Elle rappelle les années 30 en France. Là, on disait que les universités étaient gangrénées non pas par l'islamo-gauchisme, mais par les judéo-maçonniques. Donc, en réalité, c'est une logique qu'on retrouve absolument partout, et qui est très simple, soit de fabriquer l'ennemi intérieur, autour d'un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais on sait très bien qui est visé. Et puis moi, ça me rappelle aussi un peu ce sur quoi M. Jair Bolsonaro, le président du Brésil, avait construit sa campagne électorale, sur la logique du bouc émissaire, justement.
Senhoras e senhores, boa noite.
Il a transformé la peur et l'insécurité qui sévissent dans le pays en créant un ennemi intérieur responsable de tous les maux. Pour le Brésil, c'était le marxisme culturel, les professeurs qui endoctrinent les étudiants, les féministes et les LGBT qui veulent changer leur manière de vivre. En tout cas, il est très important de ne pas perdre de vue que ce qui relève des sciences humaines et sociales, ce n'est pas d'excuser les comportements déviants, ce n'est pas d'accuser l'homme blanc. C'est de mettre en lumière des phénomènes sociaux, des mécanismes qui sont ancrés. Et ce ne sont pas ces études qui les créent. Et puis peu importe de quoi il s'agit, connaître les causes d'une discrimination, d'une violence systémique, c'est la condition pour la déconstruire. Et connaître les causes d'une menace, réelle ou supposée, c'est la condition pour s'en protéger.